Bonjour. Voilà, pour commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer réunis ce matin. Seigneur, je te prie de nous aider à être attentifs à ta parole, que l'on puisse bien comprendre, en retirer quelque chose pour nos vies aujourd'hui. Amen. Alors, pour déroger à ce que Paul a dit, je ne vais pas parler d'un petit prophète ce matin. Désolé pour tous ceux qui s'y attendaient avec impatience. Non, je profite du mois d'août pour divaguer un peu plus loin et essayer de réfléchir à l'année scolaire qui vient. Et en particulier, il y a un sujet donc, qui, moi, m'interpelle ou me fait réfléchir. En fait, que soit il y a quelques années au sujet du mariage pour tous, que ce soit aujourd'hui et dans les semaines à venir au sujet de la procréation médicalement assistée pour toutes, l'Église catholique, dans une moindre mesure le monde protestant et évangélique, fait entendre sa voix sur des sujets de société, sur des sujets donc, qui parcourent, qui questionnent autour de nous. Cette voix est souvent différente, voire à l'opposé d'une partie de l'opinion populaire, et il n'est pas rare que dans ce débat public, on entende railler le discours religieux, voire même que certains s'indignent de voir le monde religieux s'immiscer dans le débat politique. Alors le texte que nous allons voir aujourd'hui va nous parler de ce lien entre notre foi et nos obligations civiles. Il va nous parler de notre relation à Dieu et à notre gouvernement. Il va nous parler de religion et de politique, c'est-à-dire le cocktail idéal pour animer une réunion de famille. Alors, le texte que l'on va regarder aujourd'hui, que je vous propose de lire ensemble, se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17. Alors, je vais le lire dans la version Summer. Voilà. Cependant, donc ce sont les... Donc il s'agit donc là des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi et des responsables du peuple qui cherchent un moyen d'arrêter Jésus. Donc je lis à partir du verset 13. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. » Ils lui en apportèrent une, alors il leur demanda « Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles ?» De César. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Ils en restèrent tout déconcertés. C'est là une situation pas évidente dans laquelle se retrouve Jésus, pris entre deux feux, qu'il réponde oui ou non à la question qui lui est posée, il va se faire avoir. La situation se passe en effet lorsque la Palestine est occupée par les Romains, après plusieurs siècles de déportation, d'exil, puis de colonisation, le peuple juif est excédé par la situation. Ils essayent de faire confiance aux prophéties qu'ils ont reçues dans l'Ancien Testament, qui parlent d'un libérateur, d'un envoyé de Dieu, c'est-à-dire d'un Messie, quelqu'un qui viendra les libérer. Et Jésus, lui-même, est reconnu comme ce libérateur quelques jours auparavant, comme en témoigne son entrée triomphale à Jérusalem, que nous rapporte le chapitre 11 de l'Évangile de Marc. Les pharisiens, juifs extrêmement religieux, les hérodiens, qui eux donc sont partisans des Romains, sont prêts à s'allier pour nuire à Jésus. En effet, au début de ce chapitre, ils se sont reconnus dans la parabole des vignerons qui tuent l'héritier de leur maître. Ils se sont sentis accusés, coupables même. Ils en veulent à mort à Jésus. Alors, en lui posant cette question au verset 14, avons-nous le droit de payer des impôts à César ? Ils veulent piéger Jésus. S'il répond oui, payez vos impôts, alors il ne peut être le libérateur attendu, car il approuverait ainsi l'autorité des Romains. S'il répond non, ne payez pas vos impôts, les Romains auront une bonne raison pour le faire arrêter. Alors, comme on veut le piéger, on commence par le flatter. Regardez avec moi le verset 14. Maître, nous savons que tu parles vrai, que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Si ça, ce n'est pas du compliment, alors il lui pose la question piège, le presse de répondre. Devons-nous le faire ou non ? L'objectif est là, le compromettre. Mais le verset 15 est intéressant. Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ?» Pas moyen de le tromper, Jésus, sur ce coup-là. S'ensuit alors un retournement de situation. « Apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. » Les conspirateurs s'exécutent et Jésus leur envoie alors la balle. Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles ? Pas moyen pour les pharisiens de se cacher, de César. Alors vient ensuite ce verset que tout le monde, chrétien ou non, connaît, enfin du moins la première partie, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Pris à leur propre piège, ils s'en vont tout déconcertés, ou, selon d'autres traductions, dans l'étonnement. Alors, que nous apprend ce court récit ? Je note plusieurs choses importantes. Tout d'abord, l'attitude de Jésus. Encore une fois, elle est exemplaire. Exemplaire dans le sens où on devrait tous prendre exemple sur lui. Attaqué, mis sur la brèche, il continue d'aimer malgré tout. Avec toute sa patience, il leur enseigne, les remet en question. Il sait qu'à l'usure, il réussira à convaincre le peuple avec eux, contre lui. Mais pour l'instant, l'heure de son arrestation n'est pas venue. Dans la suite de ce texte, dans le chapitre de Marc, deux fois encore, des personnes vont essayer de le coincer, que ce soit au sujet de la résurrection ou du plus grand des commandements. Il va répondre avec amour, sans relâche. Et justement, sa réponse au sujet du plus important des commandements est éloquente. Il va répondre sans hésiter, versets 29 à 31, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Dans de telles situations, lorsque l'on vient nous challenger, nous chercher sur le terrain de notre foi, soyons à l'image de Christ, remplis d'amour. Un second point que je note dans l'attitude de Jésus dans ce texte, c'est le fait d'agir avec discernement. Quand Jésus se retrouve pris au piège, il ne fonce pas tête. Il prend le temps de construire sa réponse en faisant intervenir les accusateurs et la réponse elle-même est remplie de sagesse. Il aurait très bien pu s'arrêter à la première partie, rendre à César ce qui revient à César. Les pharisiens auraient été pris à leur propre piège en sortant cette pièce de monnaie romaine. Cela aurait pu décrédibiliser l'accusation. Mais Jésus a voulu en profiter pour aller plus loin, les remettre à leur place, leur montrer le problème dans la vie qu'ils vivent. Peut-être trop religieusement, sans Dieu. Et là, il les atteint en plein cœur. Ils repartent tout déconcertés. Alors voilà donc pour l'attitude de Jésus face à ses contradicteurs, répondre avec discernement, sagesse, amour. Mais au-delà de cette attitude, ce texte, comme vous vous en doutez, nous parle du rôle des autorités, pardon, il nous parle du rôle des autorités et de notre rôle dans la société en tant que chrétien. On l'utilise souvent d'ailleurs pour justifier une séparation entre l'Église et l'État, entre ces deux sphères de la vie. Mais nous verrons dans quelques temps, il nous apprend bien plus sur notre vie que cela. Pouvons-nous payer un impôt à l'État ? Cet impôt injuste, preuve de votre soumission, rebellez-vous aux armes, citoyens ? Non, il répond simplement, rendez à César ce qui revient à César. Paul, dans ses lettres, va entrer plus en détail dans ce sujet. Ainsi, dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, il va nous expliquer la nécessité de notre soumission aux autorités, de cette soumission aux autorités de la part du croyant. Au verset 1, donc dans Romains 13, il est écrit « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Jésus lui-même, dans sa vie sur terre, s'est mis en retrait de ces questions politiques ou de justice du quotidien. En Jean 18, 36, c'est Jésus qui parle. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus. » C'est peut-être un verset, pour faire une petite parenthèse, un verset qui aurait mérité d'être plus étudié dans l'histoire de l'Église. Ou en Luc 12 également, on peut lire cette conversation qui nous est rapportée. Luc 12, versets 13 à 14. « Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Clairement, Jésus n'est pas venu pour mettre en œuvre un système politique, judiciaire ou social sur terre. Cette responsabilité est laissée à nos gouvernants. Cependant, par exemple, la prière enseignée par Jésus, le Notre Père, nous invite à ne pas vivre en retrait du monde. En Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Nous n'avons pas à nous détacher de ce qui se passe sur terre autour de nous. Mais nous n'avons pas non plus à imposer la volonté de Dieu. Nous avons à la rechercher. Pierre détaille dans sa lettre ceci à 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu et respectez le roi. Craindre Dieu et respecter le roi. Mais la Bible nous enseigne également que la soumission aux autorités a ses limites. Ces autorités sont certes établies par Dieu, mais que faire lorsqu'elles agissent contre Dieu ? Au chapitre 5, dans le livre des Actes, on y voit un début de réponse. À ce moment-là, les apôtres avaient interdiction d'enseigner au nom de Jésus. Cependant, ils bravent cette interdiction et se font arrêter. Que disent-ils pour leur défense ? Au verset 29, donc de ce chapitre 5 du livre des Actes, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Notre soumission aux autorités ne doit pas se faire aveuglément. Ne pas annoncer la mort et la résurrection de Jésus était impensable pour les apôtres, peu importe le prix à payer. Et nous, sommes-nous toujours autant zélés pour partager ce que nous croyons ? Sommes invités à être soumis aux autorités, mais entreprenants pour partager l'amour de Dieu autour de nous. Et nous sommes pas seulement appelés à annoncer l'évangile, le salut éternel pour ceux qui se repentent et placent leur foi en Jésus-Christ. Plusieurs passages nous invitent à témoigner des implications morales et éthiques lorsque l'on suit Christ. Ainsi, vous vous souvenez peut-être de Jean-Baptiste qui est arrêté. Jean-Baptiste est arrêté, on l'apprend en Matthieu 14, verset 4, car il disait « Tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère pour femme. » Ou en Actes 24, verset 25, Paul, qui est en prison, qui a l'occasion de discuter avec Félix, qui donc dans cette prison avec, qui le surveille dans cette prison. Et donc, le Acte 24, verset 25 nous dit donc, que Félix l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qui est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur. N'ayons ni honte ni peur de vivre une vie qui témoigne de l'action de Christ envers nous. Alors, la réponse de Jésus implique donc la soumission aux autorités. Il nous faut payer les impôts. Mais sa réponse va plus loin. Payez vos impôts, mais vivez une vie de reconnaissance envers Dieu. C'est être hypocrite que de payer ses impôts et vivre sa vie pour soi. Ce que Jésus affirme, en effet, au verset 17, c'est « Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. Autant, dans la première partie du verset, on arrive à se rendre compte facilement de ce qui revient à César. Autant, en tout cas moi, c'est plus difficile de se poser la question de ce qui revient à Dieu. On a sûrement peur qu'une fois qu'on a rendu à César ce qui lui revenait, à Dieu également, il ne nous reste plus rien pour nous. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Qu'est-ce qui revient à Dieu? Encore une fois, la lettre de Paul aux Romains va nous éclairer à ce sujet. Je propose de lire dans Romains, chapitre 12, au début du chapitre, les deux premiers versets. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part à un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce que l'on voit là, c'est que Paul invite tous les chrétiens, chacun individuellement, à vivre pleinement pour Dieu. Que notre vie soit quelque chose qui plaise à Dieu. Alors qu'est-ce qui, selon Paul, revient à Dieu? Notre vie entière. Et les pharisiens qui ont posé la question à Jésus se sont sentis remués par cette affirmation. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas cohérents, qu'il n'y a pas de corrélation entre leurs pensées d'un côté, leurs discours et leurs actes de l'autre. C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, en mourant sur la croix, nous a arrachés de la mort, du péché. C'est grâce à cela que nous pouvons vivre libérés. C'est un changement radical qui nous est offert. C'est une vie radicalement différente de celle que l'on avait avant de connaître Jésus, que l'on peut rendre à Dieu. Paul va détailler des aspects de cette vie qui plaisent à Dieu. Alors, je ne vais pas être exhaustif, j'en citais certains. Au verset 3, ne pas être prétentieux, mais au contraire être à sa place dans les dons que Dieu nous a donnés. Verset 10, être plein d'amour les uns pour les autres. Verset 11, être plein d'ardeur, ne pas hésiter, être de bons serviteurs. La liste est longue. Trois chapitres de la lettre aux Romains nous décrivent cette vie qui plaît à Dieu. Vivons cette vie radicalement transformée. Alors pour conclure, faut-il payer ses impôts? Oui, mais avant tout, vivons une vie qui plaise à Dieu. Ce qu'il a fait pour nous est au-delà de l'imaginable. Il permet que l'on soit libéré de ce qui nous retenait mort, que ce soit nos dépendances, notre rejet de nous-mêmes, nos luttes, nos tristesses, nos doutes, nos erreurs, nos errances. Jésus est le libérateur. Il nous a donné la vie. Un juste retour des choses rendra Dieu ce qui lui revient. Notre vie. Vivre radicalement pour Dieu. Un grand défi pour l'année scolaire qui vient. Un grand défi pour aujourd'hui déjà. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, merci pour la Bible que tu nous as laissée, qui est une source intarissable pour mieux te connaître. Merci pour ces paroles de Jésus qui nous invitent à te rendre ce qui t'est dû. C'est vrai, Seigneur, nous te devons la vie. C'est par ton sacrifice que l'on peut vivre. Aide-nous chacun à vivre une vie qui t'honore, une vie remplie d'amour pour toi et pour notre prochain. Je te prie de nous aider à changer dans nos vies ce qui te déplaît et à vivre pleinement comme tu l'as voulu pour nous. Merci encore pour ton amour et ta grâce qui nous transforment. Amen.